Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1,
Europe 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans les carnets. Jusqu'à 14h, on part à la rencontre des autres ailleurs. On va écouter le monde changer et on se posera un peu d'abord en Amérique, aux États-Unis, où l'histoire refait surface. La mort de George Floyd, homme noir, sous le genou d'un policier blanc, ravive le débat sur les conditions de la fin de l'esclavage. Comment réparer ce passé? Faut-il indemniser les descendants d'esclaves? Et auquel cas, qui doit obtenir réparation? Débat théorique mais bien vivant, on va l'entendre. Puis je vous emmènerai à Mexico, où un chantier a permis de mettre à jour un véritable trésor.
Nous sommes dans la remise où on a rangé provisoirement les os de mammouth. On a à peu près 1200 os qui proviennent de 15 spécimens. Ils étaient tous dans un piège creusé par des humains chasseurs-cueilleurs il y a plus de 14 000 ans.
Des mammouths en pagaille, une découverte extraordinaire. Et puis dans les carnets aujourd'hui, un peu de coronavirus tout de même, pour observer d'abord deux conséquences des confinements en Afrique. L'une est terrible, c'est l'explosion du nombre de grossesses adolescentes après la fermeture des écoles et le renvoi des enfants dans les provinces.
La vie de ces jeunes filles est détruite. La moitié d'entre elles va probablement se marier au plus vite, encore mineures. La plupart ne retournera pas à l'école et elles vont devoir commencer à travailler si jeunes. C'est une vie de misère qui les attend.
Autre conséquence positive, celle-là, l'innovation au service des malades de cancer au Rwanda. Il fallait trouver un moyen de leur faire parvenir leur traitement dans les centres de santé reculés. Désormais, les médicaments sont livrés par drone.
Zipline 242.
Zipline 242. Nous sommes prêts au lancement. Ciel dégagé, piste dégagée. On a le cap, moteur en marche.
Enfin, on ira au Japon. Ils sont très inquiets là-bas d'une recrudescence du virus, très soucieux de relancer l'économie aussi. Du coup, l'été ne s'annonce pas très folichon pour les Japonais. Ce sera boulot, boulot et boulot, même pour les plus jeunes.
Cet été, je n'aurai pas de vacances scolaires, zéro. En juillet, j'irai à l'école tous les jours et puis en août, j'aurai chaque semaine une montagne de devoirs à faire avec un contrôle sur Internet tous les vendredis. Ça va être pénible, c'est sûr. Après, ce qui me soulage, c'est que je vais pouvoir rattraper tout le retard scolaire de ces trois derniers mois qui me stressaient beaucoup.
Nicolas Carreau viendra bien sûr nous conseiller de bonnes lectures pour l'été, non pas un ni deux, mais trois romans. Et puis Joseph Chovanec viendra nous donner quelques idées de ce qu'on pourrait faire de notre temps libre pendant les vacances. Les derniers carnets du monde de la 14e saison sont ouverts et on file à New York.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Six semaines après la mort de George Floyd, le séisme continue de secouer l'Amérique. Cette semaine, le Mississippi a changé son drapeau pour retirer le symbole confédéré. On déboulonne les statues de généraux sudistes. Les Américains revisitent leur passé esclavagiste, le péché originel de l'Amérique que certains voudraient réparer par des indemnisations. Bonjour Xavier Yvon.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes à New York, mais suivez cette histoire depuis le début. Vous étiez à Minneapolis juste après la mort de George Floyd, puis à Houston, la ville où il a grandi, pour ses obsèques. Houston, où on avait entendu dans votre reportage dans les carnets la source de ces inégalités vécues par la communauté noire américaine. On va essayer maintenant de comprendre avec vous, Xavier, ce que sont ces réparations, comme on les appelle, et qui reviennent dans le débat américain.
Ah oui, ces réparations pour l'esclavage sont même devenues un argument électoral. Je vais vous emmener dans le Bronx, à New York, à l'ombre du Yankee Stadium, le fameux stade de baseball. Oui. On retrouve à un carrefour très passant Shivona Newsom. C'est la fondatrice de Black Lives Matter à New York. Elle a beaucoup manifesté ces dernières semaines. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en pleine campagne électorale des primaires pour se faire désigner candidate démocrate au Congrès pour son quartier. Bon, elle n'a pas gagné, mais elle avait mis très haut dans son programme une mesure de réparation pour l'esclavage. Écoutez ses explications.
Les réparations prendraient la forme d'une somme d'argent pour les descendants d'esclaves. Ces gens qui ont été volés en Afrique, amenés de force à travers l'Atlantique pour être une propriété et travailler cette terre. Les Noirs ont construit ce pays gratuitement. Nous devrions recevoir une sorte de compensation. Je pense que si l'Amérique veut améliorer la relation et arrêter cette oppression systémique sur les Noirs dans ce pays, qu'elle paye ce qui est dû. Quand vous pensez à ce qui avait été promis au départ aux Noirs libérés, 40 acres de terre et une mule, ça n'est jamais arrivé. Alors il est temps.
Xavier, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 40 acres de terre et une mule ?
C'est effectivement ce qui avait été promis aux esclaves libérés après la guerre de sécession en 1865. C'était un célèbre général nordiste qui avait signé cette décision après une rencontre avec des leaders noirs. Donc un lopin de terre de 40 acres par famille. Alors ça fait environ 16 hectares, donc une vingtaine de terrains de foot. C'est un beau champ. Une mule pour cultiver cette terre. Mais après l'assassinat d'Abraham Lincoln, son successeur Andrew Johnson a annulé la promesse. Une injustice de plus qui a empêché les Noirs américains de s'élever socialement, comme l'expliquait très bien Martin Luther King dans cette petite leçon d'histoire sur NBC en 1967.
L'Amérique a libéré les esclaves en 1863 avec la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln. Mais elle n'a donné aucune terre aux esclaves, rien pour démarrer dans la vie en fait. Et en même temps, l'Amérique donnait des millions d'hectares de terre dans l'Ouest et le Midwest. Ce qui montre qu'il y avait une volonté de donner aux paysans blancs venus d'Europe une base économique. Mais l'Amérique a refusé de donner cette même base à ces paysans noirs venus d'Afrique contre leur gré, enchaînés, et qui avaient travaillé gratuitement pendant 244 ans. Et donc l'émancipation, c'était la liberté d'avoir faim, c'était la liberté et la famine en même temps.
Voilà Martin Luther King en 67. Et cette question des réparations pour l'esclavage a d'ailleurs refait surface dans les années 60 avec le mouvement pour les droits civiques.
Oui, et aujourd'hui, les défenseurs des réparations, comme Shivona Newsom, expliquent que ce serait un moyen de rétablir une justice sociale, de combler le fossé économique hérité de l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il faut se rendre compte qu'une famille blanche est en moyenne 10 fois plus riche qu'une famille noire.
Les Noirs vivent dans une grande pauvreté. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'une des circonscriptions les plus pauvres du pays. On a empêché les Noirs de construire de la richesse. En augmentant le patrimoine noir, on élèvera la population noire. Donc, en donnant des réparations, on compense non seulement la douleur, mais on donne un coup de main pour réduire la fracture économique.
L'un des porte-voix de ces réparations, Robert Johnson, qui est connu pour être le premier milliardaire noir américain, a fait ses calculs. Il estime que le montant des réparations s'élèverait aujourd'hui à 14 trillions de dollars, ça veut dire 14 000 milliards de dollars.
Ça fait beaucoup, oui. Pour l'instant, Xavier, ça reste quand même une idée toute théorique.
Alors, au niveau fédéral, oui, même si chaque année, des élus du Congrès tentent de créer une commission pour travailler sur le sujet. En cas d'élection de Joe Biden en novembre, ça pourrait changer parce que l'ancien vice-président s'est dit prêt à étudier la question. Et puis, on observe de plus en plus d'initiatives privées très concrètes. L'université de Georgetown à Washington, par exemple, a retrouvé les descendants de 272 esclaves qu'elle avait vendus pour renflouer ses caisses au 19e siècle. Et elle a lancé un programme de compensation. À New York, c'est le diocèse épiscopal qui a entamé des démarches. On va monter 2 heures au nord de la ville pour se rendre à l'église Saint-James au bord de l'Hudson River. Derrière, il y a un petit cimetière champêtre historique. On y trouve les sépultures du médecin de George Washington, d'une grande partie de la famille de Franklin Roosevelt, mais aussi une pierre tombale plus modeste, tout émoussée, celle de Richard Jenkins, l'un des esclaves de la paroisse, qui est aujourd'hui dirigé par le révérend Chuck Kramer.
La plupart des plus vieilles églises, comme Saint-James, ont été construites par des gens qui possédaient des esclaves. Le diocèse de New York possédait des esclaves. L'Église a publié des arguments théologiques pour justifier la forme d'esclavage pratiquée en Amérique. Or, nous sommes la même Église qu'il y a 200, 300 ou 400 ans. Et donc, nous portons cette responsabilité en tant qu'institution. Individuellement, non, bien sûr, mais en tant que nation, nous l'avons. Il faut penser collectivement et pas individuellement. Et ça, c'est très dur pour des Américains parce qu'on a mis dans la tête des Américains que tout tourne autour de l'individu. L'Église dit, nous, en tant qu'institution, nous avons péché, et non seulement nous sommes désolés pour ça, mais nous nous engageons à réparer le dommage que nous avons en partie causé.
Alors cet engagement dont parle le révérend Chuck Kramer, il se concrétise comment, Xavier ?
Eh bien, par un fonds $1 million qui a été créé par le diocèse et qui réfléchit à la meilleure manière de l'utiliser. Est-ce que c'est en retrouvant les descendants de ces esclaves, ce qui n'est pas toujours facile à faire, ou bien en créant des programmes d'aide pour les Afro-Américains? Eh bien, toutes ces questions sont discutées dans la commission à laquelle participe le révérend Kramer. Et il y en a une, par exemple, qui est essentielle. Qui a le droit à ces compensations? Eh bien, le révérend prend l'exemple du premier président noir des États-Unis.
Barack Obama, sa famille n'a rien à voir avec l'esclavage. Son père est venu dans ce pays en immigrant du Kenya. Donc Barack Obama n'a pas souffert de l'esclavage en tant que tel, mais il a totalement souffert de l'impact de l'esclavage. Parce que le racisme ici vient directement de la déshumanisation intentionnelle des gens de couleur.
Et le révérend Kramer pense ainsi que ça va au-delà des descendants d'esclaves. Comme il le dit, les réparations, ça signifie réparer la société.
Voilà, et ces dernières semaines ont montré à nouveau à quel point elle en avait besoin, cette société, d'être réparée. Et ce débat sur les réparations pour l'esclavage, d'ailleurs, a largement dépassé, évidemment, les frontières de l'Amérique. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt.
De rien. À bientôt, Sophie.
Et bel été à vous. On descend un peu plus au sud sur le continent et on se retrouve dans quelques instants à Mexico, où des archéologues ont fait des découvertes énormes.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec Sophie Larmoyer, la suite des carnets avec un sujet plus léger que le précédent. Ils ne sont pas si courants ces derniers temps, enfin léger façon de parler. Vous allez comprendre, nous partons pour le Mexique.
Le saviez-vous, le Mexique est l'une des terres les plus riches en mastodontes du Pléistocène. Et depuis plusieurs mois, paléontologues et archéologues travaillent d'arrache-pied. Ils ont fait une découverte incroyable. Bonjour Laurence Cuvillier.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondante au Mexique et c'est à Mexico où vous vivez que des dizaines de squelettes de mammouths ont été retrouvés, des pachydermes qui nous parlent des sociétés humaines de l'époque et bah, ce sont pour ainsi dire vos voisins.
Oui Sophie, en fait quand on pense à Mexico, on s'imagine un immense tapis de béton, mais il y a quelques milliers d'années c'était un paradis végétal luxuriant où une faune dense et diverse venait s'abreuver au bord des lacs, un véritable parc d'attractions pour les paléontologues d'aujourd'hui. Alors les plus récentes découvertes ont été faites dans la zone du futur nouvel aéroport international de Mexico. Avant de construire les terminaux et les pistes d'atterrissage, les autorités ont eu la bonne idée d'autoriser quelques coups de truelle.
Vous avez pu vous rendre sur l'un des champs de fouilles. Ils sont tombés sur un véritable trésor.
Oui, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, si je vous le dis moi-même, vous allez peut-être penser que j'exagère un peu. Alors, je préfère vous y emmener et laisser parler l'archéologue Israël Peña.
On a ici les traces d'un nombre exceptionnel d'individus, entre 60 et 70 mammouths complets. Et on a aussi retrouvé des camélidés, des chevaux.
Là, nous sommes sur l'une des 128 parcelles de fouilles de l'aéroport. Le squelette du mammouth est certes disloqué, mais il est complet. Un membre de l'équipe est en train de dégager la mâchoire. Une simple molaire, faut s'imaginer, ça a la taille d'un pied humain. Sa surface est striée. Et ça fait d'ailleurs penser à la photo, vous savez, de l'empreinte du pas de l'homme sur la Lune.
À vue de nez, ce spécimen date d'il y a entre 10 000 et 25 000 ans. Donc il a tout à fait pu croiser des humains par ici.
Oui, parce que les mammouths ont occupé le continent américain pendant au moins 70 000 ans, alors que l'homme n'y est vraisemblablement que depuis 15 000 ans à peu près. Les deux espèces ont donc dû se côtoyer pendant une petite parenthèse de 5 000 ans.
Oui, 70 000 ans, ça fait en effet un sacré paquet de générations de mammouths. Est-ce que les habitants de Mexico, Laurence, sont conscients de ce qu'ils ont sous leurs pieds ?
On ne peut pas dire que ce soit ici un sujet de conversation récurrent, il faut être honnête, mais il y a quand même au nord de la ville un musée du mammouth et on l'a eu rien que pour nous parce qu'il est bien sûr fermé, Covid oblige, et c'est un autre archéologue, Luis Cordoba, qui nous y a emmenés. Alors c'est impressionnant de voir les pachydermes de 3,5 mètres de haut recouverts de bâches blanches pour ne pas prendre la poussière, on aurait dit d'immenses fantômes. Et puis sur le côté, il y a cette carte du Mexico préhistorique que nous décrit l'archéologue.
Il y a 10 000 ans, à la fin du Pléistocène, on sait que le secteur de Mexico, en fait, était un ensemble de lacs. Il y avait au nord le lac de Zumpango, puis celui de Xaltango, de Texcoco, de Xochimilco et de Chalco.
Et alors, cette carte est truffée de petites silhouettes de mammouths qui représentent les sites de fouilles les plus prolifiques.
Laurence, est-ce que justement il y a des preuves d'interaction entre les hommes et les mammouths dans cette zone?
Oui, et c'est justement cet archéologue qui vient de les retrouver et elles sont très riches en informations. À quelques kilomètres du nouvel aéroport, Luis Cordoba a découvert ce qui est, selon toute vraisemblance, un piège à mammouth creusé par des humains. Alors, il nous a ouvert la remise où il a entreposé ses trouvailles. Il faut imaginer une salle des fêtes dont le sol est entièrement recouvert de fémurs, de mâchoires et de côtes de mammouth.
Nous sommes dans la remise où on a rangé provisoirement les os de mammouth qu'on a trouvé sur le site Tultepec 2. On a à peu près 1200 os qui proviennent de 15 spécimens. Ils étaient tous dans un piège creusé par des humains chasseurs-cueilleurs il y a plus de 14 000 ans.
Laurence, comment peut-il être sûr que c'était un piège ?
Habituellement, dans la nature, les couches stratigraphiques du sol sont toujours horizontales ou légèrement inclinées. C'est la sédimentation naturelle qui s'opère au fil des millénaires. Mais ce que Luis Cordoba a retrouvé, en fait, ce sont des coupes abruptes, verticales et lisses en forme de rectangle, c'est-à-dire une fosse qui a nécessairement été creusée de la main de l'homme, ou plutôt des mains des hommes, parce qu'on parle vraiment de gros œuvres.
Le piège mesure environ 25 mètres de long sur 10 mètres de large et 1,70 m de profondeur, ce qui veut dire que pour creuser ce piège, les hommes ont dû dégager près de 400 mètres cubes de terre.
Et c'est là, Sophie, qu'on tient notre petite révolution, parce qu'un piège de cette taille en dit long sur les sociétés humaines de l'époque.
Jusqu'ici, on pensait que les micro-sociétés du Pléistocène tardif étaient composées de petits groupes familiaux de 25 ou 30 personnes. Mais pour creuser des pièges aussi grands, ils ont dû s'organiser en groupes bien plus importants, de 80 ou 100 personnes. Et surtout, ça nous montre qu'ils pensaient à moyen et long terme pour se procurer leur nourriture. Ils ont investi beaucoup de travail dans ce piège, mais ils savaient qu'il leur servirait durant des mois, voire des années.
Voilà, Sophie, et donc ces sociétés humaines étaient aussi sans doute beaucoup moins nomades qu'on ne le pensait.
Extraordinaire, toutes ces découvertes. Des mammouths, en veux-tu, en voilà. Ça se passe à Mexico et c'est magique de voir que ces pachydermes revenus de si loin nous en apprennent autant sur l'Homo sapiens. Merci beaucoup, merci Laurence pour cette balade plutôt insolite et à très bientôt.
À bientôt Sophie, bonnes vacances.
À suivre, un peu de littérature étrangère pour l'été, ça vous dit ? Nicolas Caro va nous rejoindre.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h23, c'est l'heure d'un livre dans le monde, Sophie Larmoyer. Et oui, c'est le moment où l'on découvre de bons romans étrangers grâce à Nicolas Caro qui nous a rejoint.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Trois escales aujourd'hui, histoire de nous donner de bonnes idées de lecture pour cet été. Vous avez apporté vos trois romans étrangers préférés de l'année carrément.
Oui, un américain, of course, vous me connaissez. Un britannique aussi et un haïtien.
Ça marche, alors on commence avec l'américain.
Chef-d'œuvre, livre culte, Le Prince des Marais de Pat Conroy. Il date de 1986, 20 millions d'exemplaires vendus à l'époque, adapté au cinéma avec Nick Nolte et Barbara Streisand. Enfin, chef-d'œuvre, livre culte, mais que je n'avais jamais lu. Jusqu'à ce qu'Albin Michel propose une nouvelle traduction l'hiver dernier et donc republie ce livre.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ?
Au début, dans le prologue, c'est charmant. On est au paradis, c'est-à-dire sur Melrose Island, une petite île dans les marais de Caroline du Sud. C'est Tom qui raconte. Tom Wingo, il vit là avec son frère Luke et sa sœur Savannah. Il passe son temps à courir dans la nature, à pêcher, à chasser aussi. Tom est fasciné par son père, pêcheur de crevettes. C'est ça ce qu'on appelle la littérature du Sud aux États-Unis. La nature y est magnifiée. C'est l'héritage de Mark Twain, de Faulkner. Il y a vraiment une littérature spécifique du Sud.
Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tout le monde grandit ?
Ben voilà, c'est ça. Tout le monde grandit. Ouais. Et un jour, Tom reçoit un coup de fil. Sa sœur Savannah a encore essayé de se suicider, encore parce que ce n'est pas la première fois. Tom se rend alors à New York. Il déteste les villes du Nord, mais bon. Il rencontre le docteur Lovenstein, la psychiatre de sa sœur. Et il commence à parler avec elle, à raconter l'histoire familiale pour essayer de sauver sa sœur, essayer d'identifier avec la psychiatre ce qui bloque chez elle. Mais ça veut dire révéler une terrible tragédie qui hante la famille, un secret. 750 pages qui se lisent toutes seules, tellement l'écriture est limpide, l'histoire captivante.
Le Prince des Marais, donc, de Pat Conroy chez Albin Michel. Et la fameuse traduction, donc, est de qui ?
François Cartano.
Ok, deuxième roman britannique, c'est
oui.
Ça ?
Et lequel ? Ian McEwan, Une machine comme moi chez Gallimard. Charlie. À une trentaine d'années, il engloutit toutes ses économies dans une machine, l'un des tout premiers robots humanoïdes. Ça coûte une fortune, mais alors, C'est impressionnant. C'est pas dur, on serait incapable de dire s'il s'agit bien d'un robot ou d'un humain. Il ressemble trait pour trait à un homme normal. Il y en a deux sortes, les Adam et les Ève, garçon-fille. Bon, Charlie voulait une Ève, mais il n'y a plus que des Adam. Alors, on va pour un Adam.
Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son Adam ?
Mais c'est pas trop au début. Il lit le mode d'emploi avec sa voisine, Miranda, dont il est amoureux. Ils règlent ensemble le robot. Ils peuvent décider de son caractère, plus ou moins extraverti, plus ou moins sympathique, etc. Le problème, c'est que comme un humain, le robot tombe amoureux de Miranda.
De Miranda,
et,
voilà.
Et on entre tout de suite dans le cœur du sujet du roman. McEwan explore, grâce à la fiction, toutes les impasses, toutes les contradictions de l'apparition d'une machine consciente, ce qui est en passe d'arriver avec le développement de l'intelligence artificielle, et le danger aussi de jouer à Dieu ou Prométhée. Écoutez Ian McEwan.
Le rêve de fabriquer une image de nous-mêmes, une image fonctionnelle de nous-mêmes, est très ancien. Je veux dire, c'est l'histoire de Frankenstein. On pourrait évoquer aussi le mythe de Prométhée. J'aime penser que même l'histoire de la Genèse est une histoire d'intelligence artificielle. Dieu, une super intelligence, fabrique quelque chose à sa propre image. Typiquement, et c'est quelque chose de récurrent, ce nouvel être se sent seul. Et donc, Dieu fabrique une Ève. Le monstre de Frankenstein souffre aussi de la solitude. Donc, d'une certaine manière, je me suis inspiré de cette idée qu'une machine aussi développée, aussi intelligente soit-elle, aurait du mal à trouver sa place parmi les humains.
Une machine comme moi, c'est le titre de ce roman. Traduction
de France Camus Pichon.
Super. Un petit dernier pour la route.
Oui. Maître Minuit, chez Zulma, de Mackenzie Orcel.
Et donc, ça se passe en Haïti.
Oui, ça commence avec une bonne gifle pour le lecteur. On est dans ce qui est surnommé le dépotoir et qui est en fait une sorte d'hôpital. Mais les conditions sont tellement extrêmes qu'effectivement, dépotoir, ça lui convient mieux.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit terrible ?
On rencontre Poto. Il est menotté à un lit d'hôpital et il commence à raconter son histoire à son voisin. Flashback, on retrouve Poto, enfant, qui essaye de suivre sa mère, Marie-Elita Desmoten Laguerre. Il a du mal parce que elle n'a pas envie qu'il la suive. Enfin, elle ne le voit même pas. Elle est défoncée à la colle. Vous savez, cette drogue qui détruit complètement le cerveau de ceux qui en sniffent. Bref, Poto est abandonné. Il va devoir vivre sa vie et on le suit à travers 50 ans d'histoire de Haïti. On traverse le pays et le temps avec lui, comme Maître Minuit, qui est un géant mythologique qui marche la tête dans les nuages, et Poto va peut-être trouver son salut dans l'art, dans le dessin en particulier.
Le dessin, l'art qui sauve. Maître Minuit chez Zulma, donc merci beaucoup Nicolas. Vous restez dans le coin ?
Ça marche.
La Voix est libre, c'est à 14h, on vous retrouve tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Europe 1, les carnets du monde.
Et oui, on écoute le monde changer comme tous les dimanches avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h. Alors les mesures de confinement ont eu de nombreuses conséquences en cascade pour le pire et pour le meilleur. Dans les carnets, en voici deux illustrations sur le continent africain.
Et on commence par le pire, une situation que l'on découvre avec quelques semaines, quelques mois de retard. On retrouve Charlotte Simonard depuis Nairobi. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
Depuis mi-mars, le gouvernement kényan a adopté une série de mesures pour endiguer la propagation de la Covid-19 et notamment, comme presque partout, il a fermé les écoles. Or, cette mesure serait responsable d'un terrible boom des grossesses adolescentes dans le pays. Il y a un chiffre qui circule et qui défraie la chronique depuis quelques jours, Charlotte, un chiffre qui fait froid dans le dos, hein.
Oui, et ce chiffre, c'est 4000, le nombre de grossesses adolescentes enregistrées depuis la mi-mars, rien qu'à Machakos, qui est un comté aux abords de Nairobi dans le centre du Kenya. Alors, il s'agit de filles âgées de 12 à 18 ans, certaines même plus jeunes encore, tout en âge d'aller à l'école. Et ce chiffre a été recensé auprès des hôpitaux de la région. Ce sont donc 4000 adolescentes venues en consultation. On peut dès lors imaginer que beaucoup d'autres n'ont pas voulu voir un médecin, car ici, la sexualité est un sujet tabou. Alors l'information a fait l'effet d'une bombe au Kenya. Les médias ont même appelé ce phénomène la peste du sexe.
Et comment expliquer que ce comté de Machakos en particulier soit touché par ce phénomène ?
Alors, ça a été le premier à en parler, mais le boom des grossesses adolescentes se vérifie désormais dans la plupart des régions du pays. On découvre au fil des jours d'autres statistiques, mais pas aussi élevées qu'à Machakos. C'est une région rurale, à 3 heures de route de Nairobi. La plupart des habitants de Machakos viennent en fait travailler dans la capitale, mais depuis l'arrivée du coronavirus au Kenya, eh bien, Nairobi est confinée par les autorités. On ne peut plus y entrer ni en sortir depuis plus de 3 mois maintenant. Alors, dès l'annonce de cette mesure, ainsi que celle de la fermeture des écoles, eh bien, des parents ont envoyé leurs enfants dardar à Machakos, notamment au village, chez un proche, pour pouvoir continuer à travailler ici à Nairobi. Alors écoutez, Salomé Mutama, elle est la responsable du département enfance du comté de Machakos. C'est elle qui a rendu public le recensement des grossesses adolescentes. Elle s'est exprimée à la télévision kenyane.
Lorsque nous essayons de comprendre ce qu'il se passe avec ces enfants, nous faisons toujours le même constat. Les parents les ont confiés à des proches dans leur village, à leurs grands-parents par exemple, en fournissant de la nourriture. Ensuite, une fois partis, ils ne savent pas ce qu'il se passe réellement. Ils ne prennent pas de nouvelles de leurs enfants. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes sans que personne ne prenne soin d'eux.
Voilà, il s'agit de jeunes filles et de jeunes garçons non éduqués à la sexualité qui ont des relations non protégées derrière le dos des parents. Mais plus grave, beaucoup sont victimes de prédateurs sexuels au sein même de la famille ou dans leur entourage. Des enfants vulnérables car esselés au village. Une grossesse adolescente, c'est un vrai désastre pour une jeune fille. C'est ce que dénonce Salomé Mutama.
La vie de ces jeunes filles est détruite. La moitié d'entre elles va probablement se marier au plus vite, encore mineures. La plupart ne retournera pas à l'école et elles vont devoir commencer à travailler si jeunes. C'est une vie de misère qui les attend. Je supplie leurs parents de prendre soin d'elles.
Voilà Salomé Mutama qui ne parle plus à la presse désormais tant l'information qu'elle a divulguée dérange dans le pays.
Et au-delà du dérangement, alors avec beaucoup de guillemets, est-ce que les autorités ont réagi, Charlotte ?
Alors il y a d'abord eu le déni du gouverneur de Machakos qui s'est dit choqué par ce chiffre, mais qu'il l'estime tout à fait exagéré. Il s'agit probablement, dit-il, de plusieurs consultations effectuées par quelques patientes. Ensuite, le gouvernement national s'est tout de même emparé de l'affaire et le ministre de l'Éducation a ainsi appelé à l'interdiction de la pornographie dans le pays. Je vous propose de l'écouter.
Ces filles, c'est-à-dire nos filles et nos petites filles, tombent enceintes comme si nous ne faisions que penser au sexe. Je vais demander au gouvernement que l'on bloque l'accès à la pornographie dans ce pays. Je pense que c'est une décision sage et appropriée. D'ailleurs, pourquoi ces sites pornographiques sont accessibles au Kenya ? Qui en a besoin ? Ne me dites pas que parce qu'aux États-Unis les gens y ont accès, on devrait y avoir accès ici aussi. Beaucoup de pays ont bloqué ces sites et leur culture n'en est que meilleure.
Alors on retiendra aussi la déclaration d'un homme chargé de préserver la morale dans l'audiovisuel public. Il s'appelle Ezekiel Mutua et il n'a pas été surpris, lui, par les 4004 grossesses adolescentes à Machakos. Un comté au sommet de la vulgarité, dit-il, où l'on écoute des musiques qui banalisent la sexualité, le viol et encouragent le blasphème.
Au-delà des grossesses adolescentes, ce sont les violences domestiques dans leur ensemble qui explosent partout dans le monde. C'est le cas aussi au Kenya.
Oui, il existe ici un numéro d'urgence en fait pour permettre aux victimes d'appeler à l'aide. Une ligne mise en place par l'UNICEF et le gouvernement kényan qui envoie des unités de professionnels de santé pour tenter de sauver les victimes. Alors depuis mars dernier, le nombre d'appels a explosé. Écoutez à ce propos Sat Chatterjee, il est coordinateur résident des Nations Unies au Kenya.
En février 2020, on a comptabilisé 86 appels d'urgence. Rien que sur les 3 premières semaines de juin, il y a eu 860 appels à l'aide. Alors que les femmes et les jeunes filles devraient se sentir en sécurité chez elles, leur maison s'est transformée en prison, en enfer. Cela a un impact énorme sur la société dans son ensemble. Cela affecte les femmes et les enfants, mais aussi la famille, la communauté. Comment faire dans un pays comme le Kenya d'Afrique subsaharienne? C'est un vrai défi. Les chefs des communautés au niveau régional devraient aller de foyer en foyer pour voir si les enfants vont bien. C'est un impératif humanitaire, mais aussi moral.
Mais l'un des problèmes, c'est qu'au Kenya, il n'existe pas de système de santé ni d'organisme de protection de l'enfance aussi robuste que dans les pays développés. Ajoutez à cela l'omerta et le manque de moyens. Et ce sont des milliers de femmes et d'enfants qui souffrent.
Une souffrance qui a été accentué et révélé pour une part par le confinement. Merci. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir alertés sur cette situation. Et à bientôt.
À bientôt.
Heureusement, cette situation sanitaire a aussi donné des idées à certains, de bonnes idées, a incité à innover parfois. Seconde illustration des conséquences du confinement, positive, celle-là, nous filons au Rwanda qui s'est retrouvé confronté à un problème logistique vital. Lorsque toutes les frontières intérieures ont été fermées entre les régions du pays, comment assurer l'approvisionnement en médicaments des patients atteints de pathologies lourdes ? Réponse dans ce reportage de Margot Chevance.
Imatinib, Gruvec, 100 mg, 66 comprimés.
Depuis son cabinet à Kigali, le docteur Cyprien Chiramberé passe une commande pas comme les autres. Celle d'un médicament contre le cancer qui va être livré à une de ses patientes par drone.
Au mois de mars, quand on a appris que le pays était en confinement et que les mouvements entre les districts étaient strictement interdits, donc on devrait trouver une solution pour nos patients parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'interrompre leur traitement parce que pour la plupart d'eux, c'est vrai juste dire que c'était de les condamner à mourir.
À 145 km de là et 3 heures de route de la capitale, 25 minutes plus tard, le drone apparaît à travers les nuages, au-dessus de l'hôpital de Kiré, à la frontière tanzanienne. Un autre médecin, Jean de Dieu Gatété, a été prévenu par SMS de l'arrivée de l'appareil.
Vous voyez que l'endroit de livraison a été bien étudié, c'est un bon jardin ici. Et la surface de largage est normalement très exacte. Donc à quelques mètres près, les paquets vont tomber dans cet endroit, tout près de cet avocatier. Ils vont larguer avec un système de parachute.
Cette livraison tombée du ciel, c'est une petite révolution pour Marie-Louise Kagouyiré, atteinte d'un cancer du sein. La jeune femme patiente dans une salle de consultation pour recevoir son traitement d'une durée d'un mois.
Donc l'hôpital t'a contacté pour te dire que tes médicaments seront livrés par drone?
Oui.
Et combien de fois les as-tu reçus par drone?
C'est la troisième fois aujourd'hui.
Le Rwanda compte seulement 2 centres d'oncologie. Jusque-là, pour récupérer ses comprimés, Marie-Louise devait se rendre à celui de Butaro, dans le nord du pays. Un véritable parcours du combattant, 3 jours dans les transports et des frais d'hôtel sur la route. Une situation qui était devenue intenable.
Il fallait me lever très tôt le matin pour ne pas rater le bus reliant Kigali, la capitale, puis Butaro dans le nord. J'arrivais à 17h, je passais la nuit là-bas pour voir le médecin, le jour suivant, en fin d'après-midi. Sur la route du retour, je devais encore passer une nuit à l'hôtel. C'était très coûteux et pendant ces 3 jours de voyage, mon commerce restait fermé. Au début du confinement, c'est vrai que j'ai paniqué. Comment j'allais faire pour avoir mes médicaments? Mais quel soulagement désormais de les obtenir de cette façon, sans me déplacer.
Comme Marie-Louise, près de 300 malades du cancer reçoivent leur traitement par drone depuis avril. Une immense avancée pour eux, rendue possible grâce à l'alliance entre une ONG internationale, Partner in Health, responsable de l'un des 2 centres de traitement contre le cancer au Rwanda, et la start-up américaine Zipline, jusqu'ici spécialisée dans la livraison de poches de sang à travers le pays.
Zipline 242.
Zipline 242, nous sommes prêts au lancement. Ciel dégagé, piste dégagée.
Spinning moral.
On a le cap, moteur en marche.
Zipline 242.
De cet aérodrome à Kayonza, à l'est du Rwanda, une 20aine de vols sont organisés chaque jour. Bruno Nyumungeri fait les dernières vérifications techniques, puis le drone glisse sur une rampe qui le projette dans les airs.
Quand le drone est lancé, il vole sans pilote, de façon automatique. Nous avons un contrôleur qui s'assure que tout va bien. Sur cet écran, on peut avoir des informations sur le vol. À quelle distance le drone est de l'hôpital, à quelle vitesse il va. Avec le drone, on gagne beaucoup de temps, surtout qu'ici, toutes les routes ne sont pas bitumées, alors imaginez quand il pleut. Aller dans certains endroits, c'est carrément impraticable.
Cette pharmacie futuriste dessert près de 60 hôpitaux et postes de santé à travers le pays. Et elle espère, dans les prochaines années, permettre à tous les Rwandais éloignés des centres de soins de recevoir en moins d'une heure leurs médicaments par drone, tout près de chez eux. À Kigali, Margot Chevance, Europe 1.
Voilà, c'était une solution provisoire, trouvée dans l'urgence du confinement. Et ces drones, finalement, améliorent considérablement le quotidien des malades. C'est devenu une solution pérenne. À suivre, un coup de projecteur sur le Japon qui anticipe un été pourri à cause du coronavirus. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h44 et avec vous Sophie Larmoyer, on prend maintenant la direction du Japon, un pays qui s'apprête à passer un été très très particulier dans ce contexte de pandémie.
Le Japon a été relativement épargné par la pandémie. Il dénombre un millier de morts environ, ce qui est très peu pour un pays de 125 millions d'habitants. Il n'empêche, les Japonais craignent une deuxième vague de contamination. Par conséquent, l'été sera placé sous le signe du principe de précaution. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant et vous êtes à Tokyo. Le Japon a tellement peur de cette potentielle deuxième vague qu'il va garder ses frontières fermées en fait cet été.
Voilà, ce sera vraiment un été entre Japonais. Les touristes et les hommes d'affaires de 130 pays, dont la France, que Tokyo juge peu sûr d'un point de vue sanitaire, sont interdits d'entrer sur le territoire. Et les étrangers provenant de tous les autres pays se verront d'office imposer 2 semaines de quarantaine à leur arrivée. Donc, on verra peu de touristes ici. Imaginez, vous planifiez 3 semaines de vacances au Japon, oui, mais les 2 premières semaines, vous devez les passer confinés dans un hôtel près de l'aéroport. Il n'y a plus drôle comme voyage.
Ouais.
Cela dit, de toute manière, cet été ne va pas être drôle, probablement. Alors, d'abord, il va sans doute à nouveau faire hyper chaud. Et cette année, ce sera encore plus pénible à supporter à cause du port du masque. Car ici, pas question de l'enlever. Sans masque, vous n'entrez pas dans les magasins, les bureaux de poste, les administrations, les cinémas, etc. Et puis, ne pas porter de masque dans la rue, ça, c'est l'assurance de se récolter dans les 3 minutes des regards noirs, voire des commentaires très fâchés. En plus, pour ne rien arranger, il n'y aura vraiment pas grand-chose à vivre et à voir au Japon cet été.
Oui, parce que comme en France, où tous les grands festivals n'auront pas lieu, il y a eu beaucoup d'annulations aussi au Japon.
Oui, quasiment tout est annulé. À commencer par le grand tournoi de baseball des lycéens, par exemple, l'événement de l'été. Et les fêtes folkloriques traditionnelles aussi, les festivals musicaux, les feux d'artifice géants, etc. Même le Mont Fuji est interdit d'accès. Les sentiers de grande randonnée sont fermés cet été.
Les sentiers de grande randonnée, c'est vraiment le principe de précaution poussé très loin là. Comment les gens prennent-ils tout cela, Bernard? Ça provoque de la frustration, j'imagine?
Ah oui, les Japonais sont très déçus, évidemment. Après, dans le contexte sanitaire actuel, je ne suis pas sûr qu'ils se seraient bousculés à ces événements s'ils avaient été maintenus. Écoutez ce jeune couple de Tokyoïtes.
On avait prévu d'aller en août à un festival en province qui réunit chaque année des milliers de personnes. Mais il a été annulé en raison de l'épidémie. Je peux comprendre, tant de gens réunis, cela aurait été dangereux en termes de contamination. Il n'empêche, à cause de toutes ces annulations, cet été sera vraiment mort, ça va être terrible pour ce pays. Depuis un an, on se faisait une joie à l'idée de ce voyage, on est super déçus.
Cette épidémie bouleverse notre été. D'habitude, en juillet et en août, on se lâche. On va en famille à la piscine, dans les parcs d'attractions, au ciné, au resto. Mais là, cet été, on va rester à la maison. Parce qu'on a la hantise d'être contaminé. Il y a cette deuxième vague qui se profile ici, ce n'est pas prudent de sortir de chez soi. Et le problème, c'est que tous les Japonais vont faire pareil. Donc la consommation va dégringoler, la récession s'approfondir et à coup sûr, le Japon va entrer en déflation. Moi, je suis extrêmement inquiet. Cette crise économique annoncée va terriblement impacter les ménages de la classe moyenne comme nous.
Bernard, en les écoutant, on les sent extrêmement inquiets de tout.
Oui, et l'annulation de tous les grands événements culturels ou sportifs de l'été ne va rien arranger. Les économistes estiment à 25 milliards d'euros le manque à gagner pour l'économie japonaise. Et puis aussi, alors ça a moins d'impact économique évidemment, mais ça attriste énormément de gens. On va faire une croix sur toute une série de traditions et de petits plaisirs sympas qui symbolisaient l'été japonais et qui faisaient tout le charme de cette saison.
Comme quoi, par exemple ?
Eh bien, par exemple, les grands rassemblements d'enfants qui, le soir, tous ensemble, vont admirer le spectacle des Lucioles. Ou alors allumer des feux de Bengale.
Oui, les enfants d'ailleurs vont avoir un été studieux en fait.
Voilà, les écoles sont restées fermées pendant 3 mois, donc le ministère de l'Éducation a donné la consigne aux enseignants de profiter de l'été pour rattraper le retard. Et tout le monde s'exécute. Écoutez cette collégienne âgée de 13 ans.
Cet été, je n'aurai pas de vacances scolaires, zéro.
En juillet, j'irai à l'école tous les jours et puis en août, j'aurai chaque semaine une montagne de devoirs à faire avec un contrôle sur Internet tous les vendredis. Ça va être pénible, c'est sûr. Après, ce qui me soulage, c'est que je vais pouvoir rattraper tout le retard scolaire de ces 3 derniers mois qui me stressaient beaucoup.
Demoussa, mais justement à propos de stress, d'après des ONG d'aide à l'enfance, 60% des petits Japonais ne vont pas bien à cause de cette épidémie et de son impact sur leur scolarité. Ils ont des crises d'angoisse, ils dépriment, ils sont irritables, ils manquent d'appétit. Bah, du coup, toi, comment ça va? Tu tiens le coup? Antoni Taijobuka.
Je suis super stressée, mais bon, en gros, ça va, je gère.
Eh bien, félicitations, tu es courageuse.
Merci beaucoup.
Vous êtes trop fort en japonais, Bernard. Bon, on entend que ça va être un été à la dure. Pas de vacances non plus pour les étudiants, même punition?
Oui, c'est le cas notamment de tous les jeunes qui finançaient leurs études universitaires grâce à un petit boulot, mais qu'ils ont perdu pendant l'état d'urgence. Ouais. Par exemple, parce qu'ils travaillaient dans les bars ou des restaurants de nuit qui ont dû fermer. Ils n'ont plus un sou et donc ils doivent absolument travailler comme des fous pendant tout l'été. Mmh. Et ce sera particulièrement le cas des étudiants étrangers, à cause d'une discrimination d'État.
Une discrimination d'État, expliquez-nous ça.
Eh bien, les étudiants japonais qui sont en grande difficulté financière à cause de la pandémie ont droit à une aide exceptionnelle du gouvernement, une sorte de bourse. Ouais. Mais s'agissant des étrangers, là, cette aide n'est accordée qu'aux étudiants brillants, aux 30% d'entre eux qui ont eu les meilleurs résultats au partiel.
Et comment le gouvernement justifie-t-il une telle discrimination ?
Selon lui, il est parfaitement légitime que le Japon investisse, c'est le terme du ministre de l'Éducation, dans les jeunes étrangers prometteurs, ceux qui, après leurs études, seront en mesure de contribuer utilement au Japon. Sous-entendu, les cancres sans le sou, eux, ne méritent aucun coup de pouce financier.
Et sinon, comment ça se passe dans les entreprises, là aussi, la consigne de l'été, c'est bosser ?
Ouais, et le gouvernement a vraiment insisté. Il faut absolument relancer la machine de l'économie. Il essaye aussi de promouvoir un nouveau mode de travail, le workation.
Qu'est-ce que c'est que ça, le workation? C'est work comme travail et vacation, vacances?
Voilà, c'est ça. Télétravailler à temps partiel pendant ses congés, depuis son lieu de vacances. C'est ce que fait ce Tokyoïte qui, pendant 10 jours, a délocalisé son bureau à la campagne, dans un petit gîte rural près de Nagasaki, dans le sud du pays.
L'épidémie a fait dégringoler mon chiffre d'affaires, donc je ne pouvais pas me permettre de prendre des vacances. Mais en même temps, après cette période si stressante, j'avais vraiment besoin de souffler un peu. Donc avec ce workation, j'ai coupé la poire en deux. Je télétravaille 5 à 6 heures par jour, et puis je suis en vacances. Et là, je revis. Je profite du grand air, de la nature, je me détends, je rencontre des gens charmants. Et ils sont ravis que des jeunes urbains comme moi viennent faire du workation ici. Car c'est vraiment un plan gagnant-gagnant. Nous, le cadre nous détend, et ce tourisme des gens qui bossent contribue à revitaliser la campagne. Ça aide beaucoup les petits villages qui sont confrontés au dépeuplement et au vieillissement de leur population.
Je ne suis pas sûre que ce concept du workation aurait beaucoup de succès ici en France.
Oui, mais Sophie, c'est culturel. Vous savez que les Japonais, habituellement déjà, prennent peu de vacances. Ouais. La moitié seulement des jours de congé auxquels ils ont droit. Et ben là, on leur a demandé expressément d'en prendre le moins possible pour le bien du pays. Le Premier ministre lui-même, Shinzo Abe, a fait savoir qu'il avait travaillé 148 jours non-stop de la fin janvier à la fin juin. Samedi, dimanche et jours fériés compris, il est allé au bureau. 5 mois donc sans le moindre jour de congé. Cela dit, les Japonais ne travaillent pas moins depuis le début de l'épidémie. Beaucoup n'ont pas été autorisés par leur employeur à télétravailler, donc virus ou pas, ils ont continué à aller chaque jour au bureau dans des transports en commun bondés. Et les enquêtes montrent que les Japonais qui ont télétravaillé, un salarié sur 3 environ, ont fait encore plus d'heures supplémentaires que d'habitude au bureau, tellement ils craignaient que leur employeur les juge pas assez dévoués à l'entreprise parce qu'ils travaillaient à la maison.
Ben on leur souhaite beaucoup de courage alors à tous ces Japonais pour redresser l'économie comme ça. Et ils vont travailler tout l'été, c'est ça qu'on a compris. On espère qu'ils auront quand même quelques petits moments de détente pendant cet été si particulier. Et on vous le souhaite aussi, Bernard. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur nippon. Et puis à une prochaine fois dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
À suivre dans les carnets, on fait un dernier petit tour en Autistan avec un certain Joseph Chovanec. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1, les carnets du monde.
Et pour bien finir la saison, que diriez-vous d'un petit tour en Autistan ? Joseph Chovanec nous a rejoint, Sophie Larmoyer. Joseph Chovanec rempli de sa passion des voyages et avec sa double casquette de philosophe et autiste Asperger.
Joseph qui s'est déconfiné enfin et nous voilà réunis dans le studio d'Europe 1 pour cette dernière. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors pour beaucoup, début juillet, c'est le début des vacances. Un peu spécial cette année, il faut bien s'adapter.
Eh oui, mais virus ou pas, je pense que tout le monde voudra partir avec les siens au loin aux vacances d'été. Mais en vérité, il n'y a rien de naturel là derrière. Alors certes, les vacances existent un peu partout, mais sous les formes les plus diverses. Dans beaucoup de cultures, les vacances sont surtout consacrées aux travaux des champs. Ah. J'ai pour la première fois vu cela pendant que j'avais été brièvement étudiant à l'université de Samarcande. C'est en Ouzbékistan. À un moment donné de l'été, l'université s'était totalement vidée de ses étudiants. Ouais. Moi, surpris, je questionnais les gens sur pourquoi, du comment. Mais on ne répondait pas vraiment à mes questions. Et ce n'est que plus tard que l'on m'a avoué le secret. C'est que les étudiants ont pour devoir de travailler plusieurs semaines par an sur les champs de coton. Mais la consigne est donnée de ne pas trop en parler aux étrangers.
Et comment ça, le devoir ? C'est la loi ? C'est la tradition ?
Là-bas, c'est la loi. Mais il y a aussi derrière une vieille tradition soviétique. Mes parents m'en avaient beaucoup parlé. Ils étaient issus de l'ancien bloc de l'Est. Pendant le temps libre, dans le système soviétique, on était censé faire divers travaux agricoles en été, mais aussi œuvrer à l'embellissement de sa commune chaque dimanche. Wow. Ce n'était pas tellement une question de richesse ou de pauvreté. C'était plus un principe. Hein. Et cela explique sans doute pourquoi aujourd'hui encore en Europe de l'Ouest, on fasse beaucoup appel aux travailleurs agricoles ou aux cueilleurs de fruits issus de l'Europe de l'Est, où cette tradition s'est maintenue et elle n'y est pas jugée dévalorisante. Au contraire, cela montrait une forme de civisme ou le fait que l'on prépare l'avenir de la collectivité. Par contre, en Extrême-Orient, changement de décor. Les vacances y sont très rares.
Ouais, on en parlait justement à propos du Japon il y a quelques instants.
Oui, et les quelques jours de vacances que les Japonais peuvent avoir quand l'été n'est pas trop pourri, eh bien on pourrait penser qu'ils en profitent pour faire ripaille au bout du monde, ils en auraient les moyens. Mais en fait, non. Et j'ai appris le secret des vacances d'Extrême-Orient pendant un séjour dans un monastère bouddhiste au sud de Taïwan. Je voyais des groupes de gens qui changeaient tous les 10 jours à peu près, et on m'avait expliqué qu'il s'agissait de vacanciers qui étaient donc là dans le monastère pour l'été. Cette forme de vacances est, paraît-il, très populaire chez les gens aisés. Et pour eux, le monastère a un avantage absolu. C'est que le téléphone portable y est interdit. On peut donc se déconnecter totalement, qui plus est de façon socialement acceptable.
Génial. On ne peut pas répondre puisqu'on est au monastère. Les vraies vacances. Quoi.
Exactement. Mais parfois, Sophie, l'originalité n'est pas au bout du monde. En Belgique, les vacances sont sous le signe des scouts. On dirait que l'on connaît en France, il y a quelques scouts. Mais en Belgique, c'est d'un tout autre niveau. C'est une institution nationale. Quand deux Belges se rencontrent et commencent à bavarder, il y a fort à parier qu'ils finissent par discuter de leur passé scout. Et lors de la crise du virus, le vrai sujet pour le grand public, les médias, mais le gouvernement, c'était comment est-ce qu'on a organisé l'été des scouts. Impensable en France. Et quand on évoque un endroit donné, même très reculé en Belgique, votre interlocuteur s'écriera « Ah oui, j'y étais encore scout. »
Un peu de nostalgie de son enfance.
Certes, mais pas seulement. Hein, ouais. Parce qu'aujourd'hui encore, dans les entreprises belges, les administrations préfèrent toujours recruter ceux que l'on a connus encore scout. Okay. Et au-delà de l'anecdote, il pourrait y avoir une profonde vérité. Qu'est-ce qui reste réellement des vacances de naguère, sinon les liens humains qui perdurent et ce petit espace mental qui reste avec nous, en nous, bien après le moment redouté du retour où nous pouvons nous réfugier quoi qu'il arrive et dont nul confinement ne saurait nous barrer l'accès. Un bel été donc.
Un bel été à vous, Joseph, avec plein de belles rencontres humaines. Alors, d'habitude, vous partez un petit peu loin l'été. Cette année, ce sera en France.
Maintenant, pour être franc, l'exotisme absolu pour moi, c'est Paris.
Ça, c'est bon, alors. On sera ravis en tout cas de vous retrouver à la rentrée, si le cœur vous en dit, Joseph.
À tantôt, merci.
C'est la fin des Carnets du Monde et même c'est la fin de cette 14e saison des Carnets du Monde. Quelle histoire ! Merci de nous accompagner, de vadrouiller avec nous. On poursuivra après l'été parce que ce monde est en pleine mutation et qu'avec les correspondants et les grands reporters d'Europe 1, on l'écoutera encore changer ce monde. Ce sera à la même heure le dimanche. Voilà, avec pour notre plus grand plaisir, j'adresse un très grand merci à Marc Fréjean et Florence Jumalac, merveilleuse équipe qui fabrique avec moi ces carnets tout au long de l'année. Un grand merci aux reporters et correspondants qui nous apprennent tant de choses chaque semaine. Et parmi eux, Nicolas Caro, qui est avec moi. Nicolas, c'est La Voix est libre. Dans quelques minutes, je vous passe le témoin. Ce sera aussi la dernière pour vous. Quel est le programme ?
Je reçois le grand gagnant du prix relais des voyageurs lecteurs auquel Europe 1 est associé. Et c'est Joseph Incardona pour La soustraction des possibles. Et je visiterai la bibliothèque du président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin.
Super. Et je précise que ce sera la dernière pour cette année, pour évidemment. Cette Merci beaucoup. Très bel été à vous tous. Chaque dimanche en juillet-août, vous retrouverez les meilleurs moments des Carnets du Monde. On est en train de vous préparer tout ça. Portez-vous bien.
Les Carnets du Monde sur Europe 1.